Chase you out of earth.
h 02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Aujourd'hui, au programme de l'émission, évidemment, vous en avez l'habitude, les infos locales pour commencer. Alors évidemment, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, il y a du handball, il y a du foot, il y a du basket, il y a même du hockey sur glace. Et puis, pause musicale, puis on repartira sur le volet international. Avant de présenter plus en détail de quoi on va parler, je vais présenter celui qui est avec moi aujourd'hui, c'est Faustin. Salut Faustin. Attends, excuse-moi, encore une fois, j'ai oublié d'allumer ton micro. Salut Faustin.
Salut Alex.
La forme ?
Ouais, nickel.
Un très bon week-end ?
Ouais, un très bon week-end, encore une victoire.
Oh là là, on ne l'arrête plus. Combien de points pour toi personnellement ?
Moi personnellement, pas beaucoup, je crois que j'ai mis que 7 points.
Oh là là, bon, c'est pas
grave. Un petit 3 points, mais toujours de la grosse défense.
C'est bien sûr, important. C'est important, oui, voilà. C'est important. Tu joues à quel poste déjà, toi ?
Moi, je suis plus intérieur, 4 ou 5.
Voilà. D'accord, ah ouais ?
Ouais.
Parce qu'avec ton petit gabarit, on...
Ouais, mais je suis une teigne, on va dire.
Ah oui, tu te bases sur tous les ballons et tout, tu défends bien et tout, donc c'est pour ça. Sinon, Cédric n'est pas là, comme vous avez pu vous en apercevoir. Cédric qui est absent de dernière minute, on lui souhaite un bon rétablissement. Petit problème au niveau du pied, et oui, on peut se blesser même à Génération Sport. Donc on lui passe le coucou s'il nous écoute, et puis nous, on va enchaîner tout de suite avec le sommaire. En local, on parlera du scandale qui a fait sa reprise ce week-end. On parlera beaucoup de basket avec Faustin, on parlera de l'UFAB, de Cholet Basket, comme d'habitude, et on fera un gros point sur le AB qui est plutôt bien parti pour rejoindre les playoffs de Pro B. Ce sera quelque chose à suivre dans cette émission. On parlera un petit peu évidemment du SCO qui s'est un petit peu relancé en Coupe de France. On parlera des Ducs d'Angers qui sont un petit peu dans le dur quant à eux. Et puis sinon on enchaînera sur le volet international avec le foot, la Coupe de France, mais aussi le Mercato. Je vous ferai un petit point sur tout, toutes les grosses arrivées, les gros départs, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Et puis, on parlera de basket. Tu nous feras un petit débrief, si on peut dire, sur le match de NBA à Paris entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. On en avait parlé la semaine dernière. Et donc, voilà, victoire des Bulls. Est-ce que tu as l'écart? Il y avait beaucoup d'écart entre les deux.
Ouais, ça c'est fini, je l'ai noté quelque part. 126 à 108.
Voilà, 126 à 108, donc une victoire assez large des Chicago Bulls. Et une prestation un peu décevante de Kyan Hayes. On attendait mieux. Mais voilà, évidemment. Et comme dans le basket. Enfin, en ce moment, Victor Wembanyama n'est jamais loin quand on parle de basket, et il arrive à se rattacher à tout quelque part, et il était présent à Paris. Il y a eu des mots gentils, notamment de Magic Johnson en personne,
qui a lui aussi une fois de plus pris sa photo avec Victor Wembanyama.
C'est ça, ouais, tout le monde est à ses pieds, et tout le monde devient la groupie de Victor Wembanyama même quand on s'appelle Magic Johnson. Et donc voilà, on enchaînera après ça avec le tennis. On parlera de l'Open d'Australie et des Français qui ont un petit peu déçu lors de cette Open d'Australie. On se posera la question pour la suite de la saison côté français. Et puis on parlera de handball avec le mondial qui se poursuit pour l'équipe de France avec 100% de victoire. Et ce quart de finale contre l'Allemagne qui les attend. Ce sera demain à 20h30. Donc voilà, soyez présents pour encourager les Bleus. Eh bien, je propose qu'on commence tout de suite avec donc les infos locales. Le SCO Handball qui a repris le chemin du championnat après une longue trêve hivernale rallongée à cause notamment des périodes internationales. Dans leur salle du Hara, les Angevins recevaient Vernouillet, mal classé, hein, qui lutte pour son maintien en N1 Elite. Pourtant, l'écart au classement ne va pas se faire ressentir dans ce match très serré puisque les deux équipes se tenaient au maximum à 2 buts d'écart en première période notamment. En seconde, le SCO fait course en tête mais ne parvient pas à tuer le match. Alors qu'il mène de 5 buts à 10 minutes du terme, les Angevins se font rattraper par les Franciliens à 28-28 puis 30-30. Enfin, dernière possession pour le SCO, et c'est Mounir Dwiri qui permet aussi de l'emporter 31-30 dans ce match de reprise. Le club scoïste démarre donc l'année 2023 comme il avait terminé l'année 2022 et prend ainsi donc 5 points d'avance sur son dauphin Annecy. Prochain rendez-vous donc dans 2 semaines à Cournon d'Auvergne pour les Angevins. On va enchaîner tout de suite, sans plus tarder, par le basket. Faustin, je propose de commencer par l'UFAB. Je donnerai d'ailleurs une autre info sur l'UFAB juste après toi. Je te laisse commencer.
Ouais, donc l'UFAB qui ont joué qu'un seul match cette semaine, c'était contre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Et malheureusement, c'est une défaite à domicile, 73-63. Cependant, le plus gros reste à faire, c'est demain, car les Angevines iront à Braine, en Belgique, pour jouer les 8e de finale de Coupe d'Europe. Ce sera donc le match aller, qui sera déterminant sûrement pour... Bien sûr. Leur potentielle qualification en quart de finale.
Match hyper important donc pour l'UFAB. À noter que donc on recevra justement la semaine prochaine une joueuse de l'UFAB. Ce sera Ivana Jakubkova, la Slovaque, qui joue donc à Angers. Et donc on la recevra ici dans les studios pour voilà avoir cette interview mensuelle qu'on a de l'UFAB. On n'a pas eu en décembre, hein, mais c'est à cause évidemment des vacances qu'il y avait pu y avoir. Et du coup voilà, on reçoit Ivana Jakubkova la semaine prochaine, donc soyez présents et on va encore entendre mon parfait anglais sur cette émission, ça va être un vrai plaisir. Sinon, Cholet Basket, ouais. qui ne finit plus de gagner en fait.
Ah bah, Cholet qui est en roue libre en ce moment, notamment en championnat, car c'est le seul match qu'ils ont eux aussi fait cette semaine, et c'était face à Blois où ils se sont imposés, donc comme tu le disais, sur le score de 86-82 et restent ainsi à la 3e place du classement de Betclic Elite. Une fin du match quand même assez serrée, je l'ai regardé, j'ai regardé le résumé justement parce qu'elle m'intéressait cette fin de match, et Cholet qui a bien failli donner la victoire à Blois en faisant une perte de balle à 8 secondes de la fin sur une très mauvaise relance. Heureusement, les habitants de Blois, je sais pas comment on dit ça, les Bloisailles,
Blois, c'est vrai que c'est bizarre. Bloisais peut-être. Bloisien, je sais.
Les gens de Blois. Les joueurs de Blois le panier de potentiellement la gagne, car il y avait 4 points d'écart, ils auraient pu revenir à égalité. Mais Cholet s'est fait peur bêtement sur la fin de match.
Ouais.
Ils jouent en ce moment. En Eurocoupe contre les Allemands de Niners Chemins.
J'ai pas fait
le vidéo allemand.
Ah oui, c'est vrai que c'est des Allemands, c'est ça ?
Ouais, allemand. Et il y a actuellement 11 à 14 pour les Allemands. C'est le premier carton. J'ai pas le temps sur l'équipe.
Mais en tout cas, c'est la FIBA Coupe d'Europe, si je peux te reprendre.
Oui,
c'est pas l'Eurocoupe.
J'ai dit l'Eurocoupe ?
Non, ouais, t'as dit l'Eurocoupe. Ah, mais c'est pas grave. Pas de soucis. Donc, on va maintenant parler de l'Étoile Angers Basket. On va faire un petit point là-dessus, qui a connu une grosse semaine, hein, avec deux victoires très importantes.
Sacrée semaine, excellente semaine même pour nos Angevins, qui, comme tu le disais, ont signé deux grosses victoires. La première face à Saint-Vallier en match retour de demi-finale de Leaders Cup. Les Angevins se sont imposés sur le score de 105 à 89. Ce qui signe leur qualification pour la finale de Leaders Cup qui les opposera à Boulazac le 19 février à Saint-Chamond, c'est proche de Saint-Étienne. Voilà. La deuxième victoire, c'est lors du derby de championnat qui attend d'ailleurs les scoïstes du football en Coupe de France.
La transition sera parfaite. Hein.
Voilà, j'ai tout prévu. Car ils ont donc reçu les Nantais à Jambouin. Les Angevins sont donc imposés sur le score de 86 à 74 et sont donc 8e du classement au bout de 16 journées de championnat.
Et justement, voilà, je voulais parler un peu de la situation de l'UAB qui est vraiment bonne, hein, sur ce début de saison. C'est un club promu, hein, qui arrive en Pro B, on le rappelle, champion de N1 l'année dernière. Il y a eu ce nouveau changement de coach à l'intersaison et ça, on se demandait justement comment ça allait fonctionner. Il y a eu des changements aussi dans l'effectif et finalement ça marche très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion toi de les voir jouer
Non, pas encore. Souvent, c'est soit en semaine les matchs, soit le week-end. Et le week-end, je suis aussi pris parmi les matchs concrètement. Donc malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion. J'aimerais bien y aller. Hein, ça aurait été cool de les voir en Leaders Cup, mais bon, c'est trop tard. Je pense que je les vois souvent. Je regarde les matchs sur Internet. C'est mardi soir souvent. Donc, en même temps que l'émission, j'ai le match en fond. Et c'est vrai que quand même, ça joue pas trop mal. Hein.
Ouais.
Moi, j'adore voir Akenji Williams jouer. Hein.
Ouais,
vraiment.
Ça devient justement un peu la coqueluche de cette équipe en juin. C'est vraiment un joueur qui est souvent MVP des matchs de l'EAB et qui est un vrai bon joueur, un vrai talent. On l'a reçu l'année dernière dans l'émission. Et c'est vrai que voilà, c'est un vrai atout. On se demandait justement s'il allait faire cette passerelle entre la N1 et la Pro B, en sachant que lui... vient évidemment des États-Unis, mais il avait joué près de Bordeaux. J'ai oublié le nom du club, mais il vient de Marmande. C'était en N2, et donc voilà, il a fait la transition en N1. Et là, ce qui se passe en Pro B, c'est assez excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs potentiellement qui retiennent ton attention sur cette équipe depuis le début de saison ?
J'ai pas le nom. J'ai le numéro 47, c'est le pivot.
Sean Tanner peut-être.
Ouais, c'est possible.
Sean Tanner, je crois que c'est ça. C'est vrai que c'est une recrue, lui. Hein. Mm. Je crois qu'il avait joué dans les espoirs de Cholet Basket. Et c'est vrai que c'est un super joueur, en tout cas, qui est venu remplacer un petit peu les problèmes. Enfin, pas les problèmes, mais les départs surtout qu'il y a eu du côté de l'EAB à intersaison, notamment. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui a bien su se régénérer, qui a vraiment fait cette bonne transition entre la N1 et la Pro B. Au niveau du classement, tu le disais, ils sont 8e, c'est ça ? Mm. C'est les 7 ou 8 premières places qui sont qualificatives du coup ?
Je pense que c'est les 8.
Ok, les 8.
Ça me semble plus cohérent pour s'il y a des playoffs, tu vois, c'est faire un nombre pair. Ah ouais, mais non, comme il y a la Leaders Cup.
Ouais, oui, mais d'un autre côté, je me demande pas si le premier, du coup, ne joue pas les playoffs. Un peu comme en N1, où le premier est sacré champion, et que le reste se joue, cet autre se joue les playoffs.
Ouais,
on regardera ça, mais en tout cas, effectivement, ils sont donc 8e, ils sont quand même si la Leaders Cup, ça se passe mal, donc on rappelle, la Leaders Cup donc donne une place directement en Pro B, enfin un play-off de Pro B. Et du coup, voilà, si Angers ne gagne pas cette fameuse Leaders Cup, il y a cette moyen du championnat. Donc, ils ont l'embarras du choix, entre guillemets, pour aller en play-off.
C'est clair.
Évidemment, je sais que, bon, je ne sais pas si tu suis beaucoup la Pro B, mais en tout cas, est-ce que tu les sens capables d'aller chercher ces play-offs d'une manière ou d'une autre?
Bah ouais, c'est clair. Déjà, je pense que c'est un club promu, donc ils ont forcément la rage de prouver ce qu'ils valent, de montrer que ce n'est pas des fraudes, d'être arrivés à ce niveau-là.
Oui, oui.
Et ils ont eu sûrement cet effet d'être sous-estimés en tant que promu, à mon avis, des autres équipes. Et ce qui a été pris à la légère, ce qui sera sûrement moins le cas. Là, on arrive vraiment sur la deuxième partie de saison, sur les matchs retour, etc. Et les équipes savent à quoi s'attendre. Donc, faut que l'EAB arrive à un peu renouveler son jeu, à changer certaines choses pour surprendre encore l'adversaire, hein, concrètement. Après, finale de Leaders Cup, je pense qu'on Boulazac, c'est tout à fait prenable.
Boulazac, dis-moi.
Il les joue. C'est pas le match qui vient là, c'est celui d'après.
Donc, celui d'après, et c'est le prochain match à domicile.
Ouais, ça, c'est donc, le 13 février, il me semble.
Et ouais, c'est ça, c'est le prochain match à domicile. Donc ce serait un vrai test, c'est juste avant. Tu m'as dit la finale de Leaders Cup, c'est quand?
C'est le 19.
Ouais, donc c'est une semaine avant, quoi. Ouais, c'est une vraie répétition qui est parfaite pour les Angevins. Justement, Boulazac, je voulais savoir au niveau du classement, je vais regarder ça tout de suite. Boulazac est actuellement 4e, donc c'est quand même une équipe importante, hein, de ce championnat. Je crois qu'ils ont été relégués de Betclic Elite il y a pas si longtemps que ça. Et donc effectivement, voilà, Boulazac qui va être un adversaire coriace, mais un adversaire prenable pour Angers. Il va pas falloir sans crainte, voilà, de se découvrir. Il y a clairement un titre à aller chercher, en plus évidemment d'une place en play-off. Et une fois en play-off, c'est ça la question. Est-ce que qu'est-ce que peut espérer Angers?
Au vu de leur performance en championnat, ils ont déjà clairement leur place, hein, évidemment, s'ils gagnent. Je sais pas si quand tu gagnes la Leaders Cup, si tu tombes du coup contre le dernier qualifié ou contre l'avant-dernier.
Je sais pas.
J'en sais rien. C'est...
Mais en tout cas, notamment dans le fait d'affronter des équipes potentiellement plus fortes que soi, ils ont battu il y a pas longtemps Saint-Quentin, qui est actuellement premier. Ouais. Donc c'est aussi bien révélateur de quelque chose de hyper important pour le club, en fait. C'est une équipe qui est capable de battre les meilleures équipes et qui peut créer une grosse surprise, comme Cholet l'année dernière en Betclic Elite.
Ouais, même
cette année. Et puis même tu regardes l'UFAB, en fait. Tout à l'heure, quand on parlait, j'avais l'impression qu'on décrivait un peu la saison de l'UFAB de l'année dernière, c'est-à-dire que c'est un club promu qui arrive, qui engrange des victoires, qui surprend un peu son monde, qui va prétendre aux play-offs et voilà, qui peut arriver avec pas mal de choses sur ces play-offs. Donc ça va être quelque chose de très intéressant à suivre, donc pour Angers, pour l'EAB, qui peut faire justement ce parcours un peu comme l'UFAB ou comme
ce rôle d'outsider finalement début du championnat.
Qui va être très important, donc à suivre pour l'EAB. Et voilà, on essaiera de recevoir peut-être Joanne Ratcheville, directeur sportif de l'EAB, ou peut-être des joueurs. On va essayer de rentrer en contact avec eux, hein, pour qu'ils viennent dans l'émission. On sait que ça a été nos partenaires pendant 3 années ici à Génération Sport. Donc voilà, ça va être quelque chose à suivre. Et c'est vraiment une équipe qui est sympa à suivre cette année. Contrairement à d'autres, et je vais en parler dans pas longtemps en plus, mais en tout cas voilà. Alors voilà, justement, j'ai lu le règlement de la Pro B pour être précis. Au niveau de la formule, si le club vainqueur donc de la Leaders Cup, donc potentiellement Angers ou Boulazac, est classé donc de 2 à 8 à la fin de la saison régulière, le club qui est classé 9e participera au play-off d'accession, donc ce qui est plutôt logique. Et en fait, effectivement, le premier est directement champion de Pro B et monte en Betclic Elite. Et donc voilà, c'est plus des play-offs d'accession plutôt que des playoffs de titre ou de division. Donc voilà, ça va être assez intéressant à suivre donc, pour le AB. La montée en Beclic Elite, c'est peut-être un peu loin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Gagner les playoffs, ça risque d'être quand même pas facile. Ce sera ça va être plus dur que de gagner à Leaders Cup.
C'est peut-être mieux de s'installer dans la ligue, essayer de prendre ses marques, de progresser année en année, recruter à droite à gauche et arriver peut-être saison.
On ne sait jamais, hein, tout peut arriver.
En vrai, tout peut arriver, hein, on n'est pas à l'abri d'un exploit.
Voilà, c'est toujours le rôle d'outsider qui, pour le moment, leur va très bien.
Ouais, c'est ça. Et on aura des derbies un peu plus proches qu'Angers-Nantes, avec peut-être Angers-Cholet.
Ce serait magnifique.
Ce serait magnifique. On a failli avoir ça l'année dernière, quand Cholet était menacé de descendre. Et du coup, voilà, peut-être que ce sera au premier rang national qu'on aura cette confrontation. Ne nous emballons pas trop, mais en tout cas, voilà, l'EAB, on voulait faire ce petit point un peu sur les joueurs majeurs de l'effectif, les réelles possibilités de play-offs sur la fin de saison. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et puis, donc un autre point, une autre actu, c'est tombé, je crois, que la semaine dernière, en début de semaine dernière, c'est Roser Malonga qui a quitté le club d'un commun accord avec les dirigeants. Et donc, voilà, il quitte Angers. Je ne sais pas encore s'il va être remplacé. Mais en tout cas, voilà, pour l'EAB, on va refermer ce point basket et je terminerai en disant que les habitants de Blois s'appellent les Blaisois. C'était difficile à deviner, clairement ça aurait été impossible. On va passer au SCO maintenant, au football. La Coupe de France, c'est une vraie dose d'oxygène pour la saison du SCO. Alors que le maintien semble s'éloigner en Ligue 1, les Angevins sont toujours invaincus en Coupe après deux tours disputés à Strasbourg. Le premier contre le Racing il y a deux semaines et le deuxième contre l'Olympique samedi dernier. Face aux pensionnaires de Régional 1, les scoïstes ont pourtant dû batailler pour conserver leur cage inviolée et n'ont pas réussi à convertir toutes leurs occasions. Heureusement, Mia Blazic a ouvert le score rapidement dans le match sur corner et ce fut le seul but d'ailleurs de la rencontre, malgré quelques incursions strasbourgeoises assez dangereuses. Malgré cette qualif étriquée contre les amateurs, les Angevins peuvent se satisfaire de rejoindre les huitièmes de finale d'une compétition qui peut sauver un petit peu une saison très mal engagée, pour pas dire très très mal engagée. Pour cela, il faudra continuer l'aventure au prochain tour contre ni plus ni moins que le tenant du titre, Nantes. Ce derby donc des Pays de la Loire aura lieu mercredi 8 février à 18h15 au stade Raymond Kopaï. Au niveau des transferts, on en parlera plus tard, mais pas vraiment d'évolution, pas de départ. Enfin, deux départs, c'est ceux de Marine Yakolich et de Antonin Bobichon. C'est des joueurs qui n'étaient pas du tout titulaires, même pas remplaçants pour certains dans cette équipe, donc c'était quand même compliqué de les voir rester. Mais en tout cas, donc, pas de gros départ, on pensait surtout à Unai Boufal, et pas non plus d'arrivée, c'est surtout ça qui est plus inquiétant, surtout quand on voit la performance, hein. Je ne sais pas si tu as un peu vu peut-être des résumés du match qu'on peut voir sur YouTube notamment.
Non, mais je sais que j'ai des potes à moi qui ont regardé, qui m'ont dit que c'était pas fameux, surtout contre une R1.
Moi, ce qui m'a choqué, et surtout, on gagne 1-0, évidemment, on a ce clean sheet, mais les pertes de balles en défense, c'était assez catastrophique. Ouais. Hein. Et justement, en plus, sur cette défense-là, Blazic ou Tunji, on sait très bien que depuis le début de saison, ça ne donne pas du tout satisfaction du côté du SCO. On a quand même Bernardoni qui nous sauve un peu les miches à chaque fois. Mais du coup, il y avait le jeune Ousmane Camara qui vient du Paris FC, qui avait été plutôt pas mal en Ligue 2 l'année dernière, qui était une recrue de l'été dernier et qui a eu sa chance un petit peu sur ce match et qui n'a pas tellement prouvé, qui a perdu quelques ballons dangereux. Et donc voilà, c'est pas très rassurant pour la défense, mais bon, on est toujours en clean sheet en deux matchs. On n'a quand même mis qu'un seul but en deux matchs aussi, mais voilà, l'important c'est de se qualifier dans cette compétition, on le sait. Est-ce que pour toi, justement, d'un point de vue comptable, est-ce que ça pourrait vraiment satisfaire la saison du SCO, même si on descend en Ligue 2, est-ce que voilà, un gros parcours en Coupe de France, ça peut essayer de redonner un peu de bonheur aux supporters en juin?
J'espère au moins battre Nantes. Ce serait, tu vois, gagner le derby, ça raviverait peut-être un peu d'engouement pour le SCO, tu vois. Après, je sais pas, faudrait vraiment faire une très bonne perf au moins demi-finale pour vraiment se dire que ce serait, je pense même demi-finale, on ne pourra pas dire qu'on a fait une bonne
ouais,
saison.
Je suis d'accord, je suis un peu d'accord. Moi, pour moi, clairement, c'est finale ou rien, entre guillemets.
Ouais, c'est ça.
Donc, vraiment, c'est, voilà, ça va être hyper important de, pour le SCO de soit miser à tout à fond sur le championnat, soit miser tout à fond sur, sur la coupe. Donc, ouais, ça va être compliqué. Mais c'est peut-être, voilà, c'est peut-être le moyen le plus facile hein, pour le SCO de rattraper un peu sa saison. On va enchaîner tout de suite avec le hockey sur glace. Après une année 2022 complètement folle et pleine d'émotions, les Ducs d'Angers ont entamé avec difficulté cette nouvelle année 2023. Après une élimination en Coupe de France début janvier, suivie de la défaite en finale de Continental Cup, les Ducs traversent désormais une mauvaise passe en championnat avec 3 défaites de suite en Ligue Magnus, toutes concédées la semaine dernière. Mardi, le choc contre Grenoble a de nouveau tourné en bagarre générale et a vu les Brûleurs de Loups l'emporter en fin de match 3-2. Vendredi, Sergi Pontoise est venu s'imposer en prolongation à l'Ice Park dans un festival de buts 5-4. Enfin, dimanche, c'est Nice qui s'est imposé sur la patinoire angevine, également en prolongation 1-0. Alors, ce qui explique hein, cette mauvaise période des Ducs, c'est surtout l'accumulation des matchs qui se fait ressentir. 12 matchs prévus en janvier, un rythme effréné hein, qui pèse sur les organismes angevins. Alors qu'il reste 12 matchs en phase régulière de Ligue Magnus, les Angevins sont distancés par Grenoble et Rouen et devraient vraisemblablement terminer à la 3e place à l'issue de la saison régulière. C'est vrai que c'est assez compliqué de voir les Ducs un peu en perte de forme, voilà, avec ces 3 défaites de suite qui sont un petit peu surprenantes, notamment contre des équipes un peu plus jouables comme Sergi ou comme Nice. Donc voilà, c'est vraiment dû au calendrier. Alors Cédric n'est pas là pour nous parler des Ducs, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer autant de matchs pour n'importe quelle équipe.
Ouais, bah c'est clair, c'est pas beau à voir parce que les Ducs c'était vraiment l'équipe qui rayonnait en ce moment à Angers, qui mettait même un peu d'ombre sur le SCO, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Et de les voir perdre comme ça, c'est vraiment dommage. Ça peut vraiment tâcher leur saison, je trouve.
Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après voilà, rien n'est perdu, hein. C'est pas fini. Les Ducs peuvent encore se relancer, mais en tout cas voilà, je pense que la place troisième en play-off, justement, elle est assurée. Ouais. Que ce soit derrière ou devant, mais en tout cas, voilà, ça se jouera sur les playoffs. Cédric nous en parlait évidemment plein de fois. L'objectif, c'est les playoffs, les playoffs, les playoffs. Et après, advienne que pourra, et peut-être une finale comme l'année dernière, on verra. À noter pour terminer sur un dernier volet, le volet pas juridique, mais presque, au niveau disciplinaire surtout, parce que ça fait 2 fois d'affilée que un match entre Angers et Grenoble se termine en bagarre générale. C'était très très compliqué. Il y a eu des demandes de la part des Ducs hein, pour des sanctions un peu plus fortes envers les Grenoblois qui, selon les dirigeants angevins, sont un peu les comment dire, c'est ceux qui démarrent la bagarre. En gros, voilà, j'ai plus le terme, mais voilà ceux qui démarrent ces bagarres là. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a une vraie rivalité qui est en train de monter, peut-être même plus qu'avec Rouen, qui est un peu Angers-Rouen, c'est classique du championnat. Et là, Grenoble, c'est vraiment plus une rivalité un peu méchante, dont on n'a pas l'habitude de voir un peu dans le hockey, et surtout avec Angers. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ça, si les Ducs peuvent prendre leur revanche sur les Brûleurs de Loups, même sur les Dragons, puisque voilà, les Dragons, c'est aussi une grosse équipe qu'on arrive difficilement à battre. Voilà, on suivra ça évidemment, vous en avez l'habitude, chers auditeurs, chaque semaine sur les Ducs d'Angers. On va passer à la pause musicale et puis on va revenir juste après pour parler foot, basket, tennis et même handball. Et on va se retrouver juste après le titre de Miley Cyrus et Flowers. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I can buy myself flowers. C'était Miley Cyrus et son titre Flowers. On est de retour dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. On est de retour avec Faustin pour parler donc de l'actualité internationale. Voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et donc, on va commencer sans plus tarder par le football. Pardon. On l'a dit un petit peu plus tôt, en parlant notamment du SCO. Ce week-end était un week-end de Coupe de France et il ne fut pas tellement à l'avantage des petits poussets qui ne réussissent pas cette année à créer de véritables exploits. Il ne reste plus qu'un seul club amateur en course, c'est Vierzon, club de N2, tombeur du puits. Dimanche, l'équipe du Cher jouera à Grenoble au prochain tour. Sinon, Marseille s'est qualifié dans un choc au sommet contre Rennes et retrouvera un autre cadre du championnat en huitième de finale, puisqu'on aura droit à un classico entre l'OM et le PSG mercredi 8 février à 21h. Sinon, dans les autres affiches, Lyon retrouvera Lille, Lorient affrontera Lens, Toulouse défiera Reims, Auxerre recevra Rodez et enfin le Paris FC jouera Annecy. Est-ce que tu as un favori, toi, Faustin, pour cette Coupe de France?
Le SCO.
Le SCO, peut-être, peut-être, pourquoi
non,
pas.
Non, bah, sinon, sans grande surprise, j'ai envie de dire le PSG. Hein, s'ils ne gagnent pas, ce serait une honte pour eux, hein, comme tous les ans, j'ai envie de dire. Sinon, voir le petit poussé aller le plus loin possible, hein, c'est l'objectif.
Tu as raison, ouais.
En espérant qu'ils n'éliminent pas le SCO, c'est tout ce que j'espère.
C'est vrai que le PSG, donc, qui affronte Marseille. Après, Marseille est très en forme, hein, donc attention à ça pour les Parisiens. On suivra justement ce qui se passe du côté de la Coupe de France, mais on a des beaux matchs de Ligue 1 qui vont être intéressants, le Lyon-Lille notamment, la Coupe de France qui peut aussi sauver la saison de Lyon, et je sais de quoi je parle. Et du coup, on va enchaîner sans plus tarder avec donc l'actu du mois de janvier dans le football. C'est surtout le mercato d'hiver, hein, qui s'agite, mais plutôt qui s'agite pas forcément en France. Il n'y a pas forcément de gros transferts, de grosses arrivées qui changent. Il n'y a pas de club qui change du tout au tout. Mais on va faire un point sur pas mal de dossiers et sur les grosses équipes, les gros transferts notamment. Alors, on va commencer par les équipes du haut de championnat. Le PSG, il n'y a pas d'activité, en tout cas, il n'y a qu'un seul départ, c'est celui de Pablo Sarabia à Wolverhampton, qui n'a pas l'air d'être remplacé. Donc, c'est assez bizarre parce que c'est un remplaçant, notamment du trio d'attaque du PSG. Mais en tout cas, voilà, Pablo Sarabia qui part en Angleterre. Du côté du deuxième, Lens, il y a l'arrivée de Adrien Thomasson, qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec Strasbourg et qui donc arrive après 6 mois un petit peu moins bons en Alsace, et qui arrive donc à Lens pour essayer de renforcer un petit peu l'animation lensoise, ce qui est déjà pas mal cette année. Mais voilà, je trouve que c'est un bon transfert pour Lens, mais pas de départ non plus, et pas mal de prolongations, notamment Sotoka, Medina, Fofana qui ont prolongé il y a pas longtemps. Du côté de Marseille, qui est troisième de notre championnat, on a eu pas mal de choses. Il y a l'arrivée de Malinowski, hein, qui a été acté il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a plutôt un bout de temps, justement. Il vient de l'Atalanta Bergame, hein, l'Ukrainien. Et au niveau des départs, Gerson est parti, hein, celui qui avait fait plutôt une bonne saison l'année dernière. Il est retourné à Flamengo. Luis Suarez, hein, non pas. Pas l'Uruguayen, évidemment, mais le Colombien, il est retourné en Espagne du côté d'Almeria. Et puis, voilà, c'est à peu près tout en termes de départ. Il y a également un autre dossier à Marseille, et je vais y revenir juste après. Donc voilà. Sinon, dans les autres équipes, de grosses équipes du championnat, alors Lyon, bon, qui n'est plus trop une grosse équipe cette année, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Hein. Il n'y a que l'arrivée de Yann Lovren, le Croate, qui nous vient du Zénith Saint-Pétersbourg et qui a été un ancien Lyonnais dans les années dans les années 2010. Et donc voilà, l'arrivée de Dejan Lovren qui a déjà fait 2-3 matchs. Et il y a pas mal de départs pressentis également, donc deux anciens angevins, Jeffrey Nadalid qui est en partance pour Séville, et puis Karl Togo Ekambi qui a pas mal d'offres, que ce soit du côté de Rennes, du côté de l'Arabie Saoudite, ou encore, je crois, en Espagne, du côté de Celta Vigo. Et puis également Romain Fèvre hein, qui cherche un point de chute après une arrivée qui a fait pchit hein, clairement dans l'effectif lyonnais. Donc voilà, ça va être intéressant de voir comment Lyon peut dégraisser, mais à la fois peut-être se renforcer sur ce mercato. Même s'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Du côté de Monaco, il ne se passe pas grand-chose non plus. L'équipe est plutôt bien huilée. Il y a le départ surtout de Badiachil qui allait du côté de Benoît Badiachil qui allait du côté de Chelsea en Angleterre pour 38 millions. Donc c'est une belle somme. Et donc voilà, il rejoint l'équipe londonienne. Également, une équipe surprise de ce début de championnat, c'est Lorient, qui a vu un de ses meilleurs joueurs d'attaque partir, c'est Dango Ouattara, le Burkinabé, qui est allé du côté de Bournemouth. Et puis, il y a une équipe qui joue l'Europe et qui est surtout un prochain adversaire du SCO, c'est Nantes. Nantes qui, justement, en vue de ce 16e de finale d'Europa League contre la Juventus, compte se renforcer avec donc les arrivées de Florent Mollet, de Schalke 04, que j'aime personnellement beaucoup. J'ai bien aimé quand il jouait à Metz et à Montpellier notamment. Et puis peut-être l'arrivée d'Andy Delors, mais ça c'est lié à un autre dossier. Justement, je vais y venir à ce dossier. Il y a pas mal de choses qui se passent, et notamment même aujourd'hui, c'est passé dans les dernières heures, pas mal de mouvements. Alors en fait, le point de départ de ce dossier, c'est Terem Mofi, l'attaquant nigérian de Lorient, qui a 12 buts cette année en championnat. Il est pisté par l'OM et par Nice. Alors Nice était le premier à faire une offre, mais l'OM est arrivé dans la course, notamment après avoir raté Trossard, le joueur de Brighton. Bref, si Terem Mofi parvient à trouver un accord avec Marseille, alors apparemment avec Lorient c'est déjà fait, et avec son agent c'est déjà fait, mais il faut que le joueur veuille aller à l'OM. S'il va à Marseille, dans le même temps, Bamba Dieng, l'attaquant sénégalais, va du côté de Lorient pour le remplacer. Et en plus de ça, il y aura une petite somme que va percevoir Lorient, justement. Dans ce temps-là, puisque Nice donc, cherche un attaquant, un attaquant de pointe, En-Nesyri, si donc Mofi ne vient pas à Nice, ce sera En-Nesyri, l'attaquant marocain qu'on a vu à la Coupe du Monde, qui va aller du côté de Nice et qui va libérer du coup une place pour Delors qui va aller à Nantes. Je ne sais pas si tu suis un petit peu, donc il y a un vrai jeu de chaise musicale. Ah ouais. Voilà un Lorientais qui va à Marseille, et puis derrière un Niçois qui arrive, et puis un Niçois qui repart. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu le dossier. Et justement, il y a un petit peu ça, je voulais revenir un peu là-dessus, au niveau des gardiens, et ça influe aussi un petit peu sur notre championnat, puisque ça démarre de quoi ? Ça démarre de Manuel Neuer, qui après la Coupe du Monde décide de faire du ski. Et de se fracturer. Alors, il ne décide pas de se fracturer, hein, mais il se fracture la cheville, je crois. Et du coup,
c'est la jambe carrément.
Ouais, c'est la jambe.
Ouais, c'est. Ok. Ouais, c'est...
Mais en tout cas, voilà, c'est au niveau de la jambe. C'est une fracture, une double fracture. Ouais. Bref, c'est mort pour la fin de saison. Et il joue le PSG bientôt. Donc, il décide de remplacer par un très bon gardien, Yann Sommer, qui joue au Borussia Mönchengladbach, et il l'achète pour à peu près 8 millions. Il a déjà fait son premier match d'ailleurs ce week-end. Ce joueur-là, ce gardien-là, suisse, est remplacé par un autre gardien suisse qui joue dans le championnat, c'est Jonas Omlin, qui joue à Montpellier, et donc voilà, qui donc part à Gladbach, parce qu'il faut un remplaçant à Sommer. Sauf qu'à Montpellier, du coup, il faut un remplaçant à Omlin. Et du coup, potentiellement, actuellement, ce serait Benjamin Lecomte, qui est un ancien Montpelliérain, et qui joue maintenant à l'Espagnol Barcelone, qui est potentiellement donc, voilà, courtisé par Montpellier. Sauf que Lecomte était aussi pisté par Lorient, parce que je ne sais pas si tu sais, mais ils avaient un autre gardien suisse, encore une fois, Mvogo, qui faisait un très bon début de saison et qui s'est blessé gravement et qui, pareil, est out jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, voilà, ils n'arrivaient pas à le remplacer. Ils voulaient donc Lecomte, ça ne se fera vraisemblablement pas. Et du coup, Lorient maintenant se dirige vers Alphonse Areola. Et je trouve que c'est une très belle piste. Et ça permettrait à Alphonse Areola de prendre du temps de jeu, parce qu'il est gardien remplaçant à West Ham, donc ça va être intéressant pour lui, et même pour Lorient, d'avoir un gardien de classe mondiale, sachant qu'ils sont 7e, donc ça peut être une vraie plus-value pour eux. Au niveau de la course au maintien, parce que ça concerne le SCO, c'est un dossier important, il faut savoir que Angers Et un peu dans la même situation que Troyes et Ajaccio, qui donc jouent aussi le maintien, ils n'ont pas encore recruté. Il n'y a pas d'arrivée, pas de départ flagrant, donc pour l'instant, ça ne bouge pas du côté de ces clubs-là. Sinon, les autres essaient de se renforcer en vue de ce maintien. Auxerre a fait signer deux jeunes joueurs prometteurs avec des prêts, Mathis Ablin de Rennes et Isaac Touré de Marseille. Par contre, dans le même temps, Benoît Costil est parti à Lille pour remplacer Léo Jardim, qui était doublure de Lucas Chevalier. Donc voilà, Auxerre qui se renforce au niveau des joueurs de champ, mais après au gardien, faut voir. Brest, pour l'instant, il n'y a pas forcément de grosses arrivées, mais il y a Kenny Lala, l'ancien de Strasbourg, qui était pas mal en arrière-droit, qui vient du coup de l'Olympiakos. Et il y a le départ de Irvine Cardona, qui n'était plus vraiment titulaire du côté de Brest. Et il y a Loïc Rémy, pour l'anecdote, qui est à l'entraînement avec eux. Pour l'instant, il veut pas... C'est pas dans les projets de le faire signer, mais en tout cas, voilà, il est dans le coin.
Il est plus sous contrat sous aucun club.
Il est sans club, du coup, il s'entraîne avec Brest, c'est pour ça.
Okay.
Mais voilà, Eric Roy l'a connu un peu du côté de Nice. Strasbourg vraiment met le paquet, parce qu'on sait que l'année dernière, ils étaient pas loin de l'Europe, c'était assez chaud. Et là, ils sont vraiment un peu en difficulté, c'était vraiment un début de saison de galère pour eux. Et du coup, ils ont changé d'entraîneur, d'ailleurs, c'est Le Scornet qui remplace... Julien Stéphane. Et du coup, arrivée de Morgan Sanson, donc belle pioche, hein, lui qui a un peu floppé du côté d'Aston Villa. Et c'est Jérémy Gilbert, pardon, qui arrive aussi d'Aston Villa, lui qui était aussi là l'année dernière à Strasbourg, et qui était prêté à Strasbourg, qui est revenu à Aston Villa, ça n'a pas marché. Et du coup, là, il revient encore en prêt à Strasbourg. Et puis par contre, ils perdent pas mal de joueurs aussi, parce que voilà, ils se renforcent, mais ils perdent des joueurs, avec notamment Ludovic Ajorc, qu'on connaît bien, qui a fait de très bonnes saisons en Ligue 1, et qui partit aujourd'hui du côté de Mayence, en Allemagne, et Adrien Thomasson, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà, le SCO qui ne fait pas forcément un bon mercato, mais ça a du mal un peu sur les autres clubs aussi à recruter, donc ce sera quelque chose à suivre. Le SCO en tout cas n'est pas en retard de ce point de vue-là. On va partir du côté rapidement de l'étranger, de vous parler des gros clubs, ceux qui font un petit peu, qui font parler sur ce marché des transferts. Le premier gros club auquel je pense, c'est évidemment Chelsea, avec des sommes colossales dépensées par le nouveau président Todd Boehly, l'Américain. Il faut savoir que sur ce mercato, il y a entre 180 et 200 millions d'euros qui ont été dépensés par le club. C'est assez dingue pour un mercato d'hiver. Faut savoir que le club est toujours dixième de Première Ligue, hein, ça n'a pas changé. Donc parmi les grosses arrivées, on retient donc Badiachil de Monaco, qui a déjà joué des premiers matchs. Moudrik, la pépite ukrainienne du Shakhtar, qui pareil a fait une bonne entrée contre Liverpool ce week-end.
C'est pas Chelsea qui l'a allé, Moudrik?
Ah, c'est ce que j'ai dit, Chelsea, je parle de Chelsea depuis le début.
T'as dit Manchester City, il me semble.
Depuis le début, là, je parle de City.
Ouais, il me semble que t'as dit Manchester City, justement.
Bon, bref, je parle de Chelsea, du coup, qui est dixième de Première Ligue. Donc voilà, Moudrik du Shakhtar qui est arrivé. Et puis, Joao Félix en prêt également, qui nous vient de l'Atlético de Madrid. Et également, Madueke, un Anglais qui jouait au PSV Eindhoven, en plus de Nkunku, qui devrait venir à Chelsea en juin prochain. Donc ça fait beaucoup.
Ouais.
Ça fait énormément pour Chelsea, avec des contrats surtout très longs pour passer outre le fair play financier. À noter également que Malo Gusto, le Lyonnais, est pisté par Chelsea et que ça devrait aller dans le sens des Londoniens notamment. Sinon, parmi les grosses arrivées en Première Ligue, on retient l'arrivée de Cody Gakpo, qui est une vraie révélation du côté de la Coupe du Monde et du PSV Eindhoven. Donc il arrive à Liverpool. Ensuite, Weghorst, qui arrive aussi à United. Voilà, lui, il vient de Besiktas et il vient remplacer numériquement un certain Cristiano Ronaldo. On n'en a pas trop parlé dans l'émission, mais voilà, Cristiano Ronaldo part à Al Nassr parce que voilà, ça s'est mal passé sur la fin avec United. Et donc voilà, Weghorst le remplace. Du côté de Arsenal, ils voulaient faire Moudrik. Ils n'ont pas pu le faire, ils se sont fait un peu shipper. Du coup, ils ont shippé Trossard à l'OM. Bref, c'est un peu compliqué aussi. Mais en tout cas, voilà, Trossard qui flambe un peu avec Brighton, le Belge, et qui va du côté d'Arsenal. Sinon, dans les autres clubs de Première Ligue, il y en a un qui se démarque avec pas mal d'ambition. C'est Wolverhampton, hein, qui joue le maintien cette année et qui a signé donc Sarabia du PSG, Matheus Cunha de l'Atlético et puis Mario Lemina de Nice. Sinon, au niveau du reste de l'Europe, on a notamment en Espagne pas mal de changements avec l'Atlético Madrid qui fait pas mal de changements en attaque. Donc on a dit Cunha qui part à Wolverhampton, Félix qui part à Chelsea et dans le même temps, c'est Memphis Depay qui arrive du côté du FC Barcelone. Et puis à Séville aussi, on peut noter les arrivées du coup des Français. Rennes Adelaïd, on l'a dit, de Lyon. Et puis Loïc Badet de Rennes. Donc voilà pour le point football. Il est déjà 20h47. On va enchaîner tout de suite. Faustin, tu vas nous parler de basket, du coup, comme je viens de le dire et comme d'habitude. Par quoi tu commences?
Comme d'habitude aussi, hein, par la Betclic Elite. Voilà. Où je vais commencer par le match opposant Fos-sur-Mer au Metz. Avec une surprise, car Fos-sur-Mer a fait trembler les Mets. En effet, au terme d'une superbe seconde mi-temps, ils avaient le panier de la gagne dans les mains, mais le meneur phocéen a loupé le dernier lay-up, pouvant leur donner un point d'avance et ainsi la victoire. Ils s'inclinent donc sur le score de 82 à 83, et les Mets gardent ainsi leur deuxième place, juste au-dessus de Cholet. Monaco s'est aussi fait peur en s'imposant seulement de 4 points contre Nancy, un peu dans le même scénario que Cholet, qu'une paire de balles bêtes en fin de match qui aurait pu leur coûter la victoire, mais cependant ils gardent quand même leur première place. Maintenant du côté de l'Euroleague, Monaco encore s'est incliné en prolongation contre Fenerbahçe, tandis que l'ASVEL s'est imposé 79 à 73 contre Milan. Maintenant, je vais passer à la NBA et je vais évidemment vous parler du NBA Paris Game qui s'est déroulé jeudi dernier. Et ce sont donc, comme on le disait au début de l'émission, les Chicago Bulls qui ont gagné 126 à 108 contre les Detroit Pistons. Sur place, de nombreuses stars NBA et pas que étaient présentes, comme Magic Johnson, qui a d'ailleurs pris sa photo avec Victor Wembanyama, le commissaire de la Ligue. Adam Silver, le commissaire de la Ligue, c'est un peu comme le président de la Ligue, oui, on va dire.
Je vois qui c'est.
Voilà, c'est...
Il fait peur un peu, ce monsieur.
Ouais, ouais. C'est...
fait penser un peu à Voldemort.
je vois ce que tu veux dire, tout à fait.
Très peur.
Était donc sur place. Pharrell Williams était assis juste à côté de Magic Johnson, courtside, durant le match. Carrément. Ouais, on avait beaucoup d'images pendant le match de qui rigolaient, qui discutaient. On a aussi eu droit à d'anciens joueurs français jouant en NBA, comme Joachim Noah, Tony Parker, Ronny Turiaf, ainsi que Florent Pietrus. Le mini-concert de la mi-temps a été présenté par le rappeur Zola, qui était en béquille, voilà, qui était assis sur sa chaise au milieu du terrain.
Je ne sais pas ce que ça a donné, ça n'a pas dû être dingue.
Non, y a eu une coupure pub oui, à ce moment-là. Aller. Donc, on n'a pas pu trop voir, mais quand ils sont revenus, on l'entendait un peu derrière. Okay. Ça n'avait pas l'air de mettre trop l'ambiance.
Oui, je pense surtout s'il est en béquille.
Ouais, c'est ça. Après, au niveau du match, c'était un match assez sympa, finalement assez lambda pour de la NBA, malgré la large domination des Bulls. Malheureusement, Kylian Hayes n'a pas su répondre aux attentes en sortant un match à seulement 4 petits points et 8 passes décisives. Même si au premier quart-temps, on pensait qu'il avait enchaîné 3-4 passes décisives dès le premier quart-temps, on s'est dit « Ah, c'est pour se mettre en route, après ses shoots vont rentrer ». Et malheureusement, non, il était vraiment court sur chacun de ses tirs pendant tout le match. C'était très frustrant de le voir comme ça.
Même à domicile en plus.
Ouais, ça se voyait, même lui, qu'il était frustré à chaque fois et qu'il tirait, il se tapait dans les mains. Et c'était vraiment super frustrant de voir ça.
Ouais.
Cependant, Demar DeRozan et Zach LaVine, les deux superstars des Bulls, ont assuré au scoring avec respectivement 26 et 30 points. Ensuite, le dunker fou Derrick Jones Jr., qui s'est d'ailleurs fiancé durant son voyage à Paris, a su nous régaler avec des super conclusions de alley-oop, comme il en a l'habitude. À part ça, en NBA, la NBA a démarré la Rivals Week. Mm-hmm. Ça commence ce soir, où le calendrier est fait en sorte que de grosses équipes se rencontrent ou qu'il y ait des derbies avec, par exemple, le match opposant les deux équipes de Los Angeles, donc les Lakers contre les Clippers, ou bien un match entre Boston et Miami qui aura lieu ce soir, ou bien encore un remake de la finale de NBA de 2019 opposant les Warriors aux Toronto Raptors, en espérant évidemment que le résultat sera le même qu'en 2019.
Effectivement, les Raptors, une équipe qui est chère à ton cœur, je crois. Eh bien, merci pour ce petit point basket. On va enchaîner sans plus tarder par le tennis et l'Open d'Australie qui se poursuit donc cette semaine du côté de Melbourne. Les Français, on l'a dit, voilà, c'est pas trop bien passé pour eux. Au troisième tour, du côté des messieurs, il n'y avait plus que deux Français, Hugo Humbert qui jouait la tête de série numéro 9, Rune, le Danois, qui a perdu en 3-7, 6-4, 6-2, 7-6. Et puis Benjamin Bonzi, qui est pareil, qui n'était pas forcément un des Français attendus, qui a perdu contre l'Australien demi-nord, 7-6, 6-2, 6-1. A noter que la déception notamment de Richard Gasquet, qui venait de gagner juste avant un tournoi ATP 250, qui a perdu dès le premier tour, hein, je crois, face à Hugo Humbert, justement. Donc voilà, frustrant pour Richard Gasquet, qui était revenu en forme. Au niveau du reste du tableau, on sait déjà une des demi-finales, c'est Karen Khachanov, le Russe, qui jouera Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Et puis cette nuit, il y aura, même demain matin, il y aura les autres quarts de finale entre Rublev et Djokovic. Djokovic qui écrase tout sur son passage, hein, sur ce tournoi. Et puis il y aura un match américano-américain entre Shelton et Paul. Donc voilà, on aura au moins un Américain en demi-finale de Grand Chelem. Du côté des dames, côté français, on misait tout sur Caroline Garcia pour potentiellement représenter la France le plus loin possible. Ça s'est plutôt bien passé sur les premiers tours. Malheureusement, voilà, ça s'est terminé lundi matin. C'était face à la Polonaise Linette en huitième de finale, en 2-7, en deux petits sets. Et donc voilà, la Française qui s'arrête rapidement donc, et qui ne verra pas la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Sinon, parmi les autres résultats des Françaises, dès le deuxième tour, il n'y avait plus que deux Françaises justement. C'était l'Angevine, Clara Burel, on en parlait la semaine dernière, et donc Caroline Garcia. Donc voilà, vraiment une hécatombe côté Française et Français. On espère que ça va aller mieux sur la suite de la saison, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Au niveau du reste du tableau, on a pas mal de pays européens qui sont représentés en quart de finale, notamment la Lettonie avec Ostapenko, la Biélorussie avec Azarenka, la Pologne avec Linette, justement, la République tchèque avec Pliskova, encore une Biélorusse avec Sabalenka et la Croate Vekic. Alors, il faut savoir que donc Azarenka, qui a déjà gagné ce tournoi il y a un petit peu de temps maintenant, revient à son meilleur niveau et est en demi-finale de ce tournoi. Elle affrontera en demi-finale justement la Kazakh Rybakina. Et puis donc les autres quarts de finale, on l'a dit, Pliskova Linette et Sabalenka Vekic. Voilà pour le point tennis. On va maintenant se diriger du côté du handball pour terminer avec l'équipe de France. On vous avait laissé avec un premier tour plutôt simple, 3 matchs, 3 victoires. 3 autres matchs attendaient les Bleus sur la suite de la compétition lors du tour principal. Ils jouaient notamment le Monténégro, l'Iran et l'Espagne. Le premier match a été bien négocié par les Bleus, victoire 35-24. Et puis le deuxième a été aussi très bien géré, malgré une première mi-temps un peu poussive. Voilà, les Bleus qui se sont imposés 41-29. Et enfin, c'était donc dimanche soir, victoire des Français contre les Espagnols, 28-26. C'était assez serré comme match. Et justement, les Français qui menaient pas forcément. Voilà, il y avait 19-16, hein, plus 3 pour les Espagnols, alors qu'il restait à peu près 20 minutes, un quart d'heure. Et donc voilà. Et puis, finalement, les Français qui ont réussi à l'emporter et à terminer premier de leur groupe, ce qui est plutôt important, puisqu'ils vont jouer du coup l'Allemagne et non pas la Norvège en quart de finale. Ce sera du coup demain à 20h30, donc France-Allemagne. Et sinon, pour les autres quarts de finale, on aura un beau match Norvège-Espagne qui va être très intéressant. On aura sinon Danemark-Hongrie qui sera un petit peu plus déséquilibré. Et un très beau Suède-Égypte, hein, Suède qui joue à domicile, et l'Égypte qui est la seule équipe non-européenne de ce pas dernier carré, mais de ces quarts de finale. Donc voilà pour le handball, c'était le point sur l'actualité avec donc ce mondial qui bat son plein du côté de la Pologne et de la Suède. On arrive tout juste à la fin de l'émission, il est 20h56. Faust, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Ouais, un petit point score.
Vas-y.
Pour Cholet qui, à la mi-temps, gagne 44-38 contre Niederschmitz, le club allemand en Coupe d'Europe.
Donc c'est plutôt bien pour Cholet. À noter que aussi il y a un match des Ducs ce soir, mais c'est contre Anglais, mais en tout cas voilà, j'ai pas actuellement le score, normalement c'est Cédric qui s'en occupe, mais il sera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, pour parler des Ducs. Justement la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous à 20h mardi 31 janvier pour parler basket avec l'UFAB 49 et la Slovaque Ivana Jakubkova qui sera avec nous dans les studios pour parler de ce début de saison angevin. Et puis voilà, on parlera notamment aussi de ce huitième final retour qui arrivera juste après l'émission. Et puis surtout, l'aller, c'est demain, c'est ça ?
C'est demain, ouais, tout à fait.
Exactement. Donc voilà, soyez présents la semaine prochaine. On vous laisse avec Imaginaire. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine.